Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour, c'est Morgane. Bienvenue dans les ateliers radiophoniques de Canal B. Vous allez entendre le second épisode d'une émission réalisée par Maya, Esmeralda, Swad, Fatima, Sharifé, Warda, Ashraf, Serhan, Rick et Fatma, qui apprennent le français à langue et communication avec Anaïs Siver et Laurie Soulabaille. Ils ont choisi pour thème la fête. Au programme, l'interview d'Alice Buté des Tombées de la Nuit et celle de Sophie, formatrice à langue et communication.
Bonjour, nous sommes 7 étudiants à langue et communication de nationalité.
Syrien, Syrienne,
Tunisien,
Albanaise,
Tchétchène,
Russe,
Yéménite,
Marocaine.
On s'appelle
Souad,
Maya,
Esmeralda,
Fatima,
Sharifé,
Ashraf,
Warda et Serhan qui n'est pas pu venir aujourd'hui.
Nous apprenons la France et nous faisons une émission de radio sur la fête avec Morgan de Canal B, Laurie et Anaïs. Nous avons découvert des fêtes qui se passent en France, comme le carnaval, la fête de la musique, la fête nationale française.
Nous avons partagé nos idées sur les mariages, sur les droits, sur les interdits. Nous avons interviewé des membres de l'association Amitié Kurde de Bretagne pour parler des Nowruz. Sophie, sur les mariages catholiques. Nous avons interviewé Alice des Tombées de la Nuit et Ivan de l'association La Pulse qui organise le carnaval de Rennes. Nous avons fait des recherches ou champ libre sur la fête. Nous vous souhaitons une bonne émission.
Pour moi, la fête, c'est national.
Pour moi, la fête, c'est la musique.
Pour moi, la fête des amis.
Pour moi, la fête, c'est liberté.
Pour moi, la fête, c'est la vie. Pour moi, la fête, joie.
Pour moi, la fête, c'est l'ambiance. Bonjour, nous sommes étudiants de français et langue de communication. Nous préparons une émission radio avec Morgan, journaliste à Canal B. Nous avons choisi de parler de fêtes. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous pouvez vous présenter.
Bonjour, moi je m'appelle Alice, je travaille aux Tombées de la Nuit. À Rennes, donc depuis 6 ans, et je suis responsable des relations avec les publics. Donc moi je travaille pour une association, Les Tombées de la Nuit, c'est une association qui fait du spectacle, donc qui travaille avec la danse, le théâtre, le cirque, la musique. Et on fait aussi des choses qui sont un peu incompréhensibles, qui s'appellent des installations ou des performances. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on travaille avec des artistes et on fait des spectacles tout au long de l'année. Et on a aussi un festival. Un festival, c'est quand il y a des spectacles qui sont sur plusieurs jours d'affilée. Voilà, et moi, je m'occupe de des relations au public, aux Tombées de la Nuit. C'est-à-dire que je fais tout le lien avec les gens. Je fais le lien entre la structure, les Tombées de la Nuit, les artistes et les publics, et tous les publics. Donc je travaille avec tous les gens, je rencontre un maximum de gens, mais je travaille aussi avec les écoles, avec les prisons, avec les hôpitaux parfois. Enfin, je travaille avec un maximum de personnes.
Bon, les questions, quelles sont les différences entre un festival et une fête populaire?
C'est une très bonne question. Moi, je crois qu'un festival, ça doit devenir un peu une fête populaire. Mais une fête populaire, je dirais que c'est quand même une fête qui lie un peu tous les gens à travers une date particulière, historique et tout ça. Là où le festival, ça va être un temps de fête qui est un peu créé de toutes pièces et qu'on invente avec une thématique qu'on invente qui est différente de la fête populaire un peu. Mais ça reste une fête populaire, un festival. L'idée, c'est que tout le monde prenne du plaisir et fasse la fête ensemble. Nous, on a un festival en plus qui se fait en espace public, donc dans la rue, sur les places publiques, dans la rue. Et donc, souvent, on est au contact des gens, de la population, et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on recherche.
Quels sont les grands festivals à Rennes chaque année ?
Alors, à Rennes, on a la chance d'être dans une ville où il y a énormément de festivals. J'ai un tableau dans mon bureau, je pourrais vous le montrer en repartant. C'est un espèce de camembert, comme ça, un cercle. Et en fonction de l'année, j'ai tous les festivals qui se passent. Il n'y a pas un seul mois de l'année sans au moins 3 ou 4 festivals, je dirais. Mais les grands, on va dire les Tombées de la Nuit, bien sûr, en juillet. Il y a les Transmusicales en décembre. Qui sont organisées par les Transmusicales, l'association, qui est un festival de musique. Là, il y a le festival Mythos. Festival Mythos, qui est un festival de musique et de théâtre de la... Enfin, un festival de la parole contemporaine, on appelle ça un peu compliqué. Mais en gros, qui fait du théâtre, du conte, voilà, autour de la parole. I'm from Rennes, Maintenant, Marmaille.
Les embellis.
Waterproof sur la danse. Le festival TNB sur le théâtre, enfin, il y en a plein, en fait.
Tous les mois.
Tout le temps.
Ah, est-ce que les festivals Upoino ?
Alors, notre festival, s'il est payant, il est très peu cher. On a toujours des spectacles gratuits. Parce que comme on est sur les places et tout ça, c'est aussi hyper important pour nous que tout le monde puisse voir les spectacles. Donc, il y a beaucoup de festivals et de spectacles gratuits. Quand on a des spectacles payants, c'est très peu cher, donc on essaye au maximum qu'il soit à 5€ maximum et 2€ en tarif sortir. Je ne sais pas si vous avez encore, si vous avez découvert ce tarif.
La carte sortir, la carte vous l'avez, sortir. Ouais.
Voilà, bah avec la carte sortir à Rennes, c'est très avantageux, on peut faire beaucoup de choses. Et donc nous, en carte sortir, souvent on est à 2€ et sinon c'est 5€. Il y a des spectacles qui nous coûtent très cher, qu'on achète très cher. Donc obligatoirement, on est obligé de les revendre un peu plus cher. Parce que sinon, notre économie ne fonctionne pas. Mais c'est rarement plus de 10 euros.
Ah, est-ce que les festivals parlent de région ?
On a un festival 100% laïque. C'est très important. On peut parler de religion, mais on ne prendra jamais parti pour une religion, en tout cas.
Bon, moi, c'est fini les questions. Okay. Maintenant, je passe les paroles à mon collègue Fatima.
Bonjour. En quelle année a lieu le premier festival ?
Le premier festival des Tombées de la Nuit, j'essaye d'être claire. Le premier festival des Tombées de la Nuit sous cette forme, c'était sous la forme qu'on a actuellement, c'était 2003. Avec un directeur qui s'appelait Claude Guinard, qui est un directeur qui est resté pendant 20 ans, qui est parti à la retraite là en 2023, mais en tout cas, le premier festival qu'on a maintenant était en 2003. Mais avant, le Festival des Tombées de la Nuit, c'était la ville de Rennes qui le portait et c'était l'office de tourisme de la ville de Rennes. C'était un festival qui était là pour les touristes. En gros, en début d'été, c'est pour ça qu'il a cette place aussi en début juillet. C'est parce qu'il était là pour les touristes. Et du coup, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le premier festival des Tombées de la Nuit, c'était 1993 ou 92, j'ai un doute.
Et pourquoi ce festival s'appelle la Tombée de la Nuit ?
Eh ben, ils ont pas fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que, à la base, ils faisaient des spectacles le soir, à la fin de la journée pour les gens et le début de la nuit. Donc, ils se sont dit, on fait des spectacles à la tombée de la nuit. On va appeler ça le festival des tombées de la nuit. Voilà. Je crois que ça n'est pas allé plus loin.
En même temps, c'est très joli.
C'est très joli.
Les tombées de la nuit.
Mais c'est pour ça qu'on l'a gardé. Et maintenant, il y a plein de jeunes avec lesquels on travaille qui nous disent, mais pourquoi ça s'appelle les tombées de la nuit alors que vous faites des spectacles à 14 heures? C'est comme ça maintenant. On a beaucoup d'incohérences. Mais.
Et combien de jours dure la festival?
Moi, ça fait 6 ans que je suis aux tombées de la nuit. Je crois que ça fait 6 ans qu'il dure entre 4 ou 5 jours.
Est-ce que l'artiste qui participe aux tombées de la nuit sont des amateurs professionnels?
C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre longuement. Parce que du coup, aux tombées de la nuit, on n'a que des spectacles professionnels, d'artistes professionnels. Donc c'est des gens dont c'est leur métier qu'on paye pour venir faire leur spectacle. On paye leur création. Mais en fait, nous, au tombé de la nuit, on a une spécificité, c'est qu'on a des habitants complices. Qu'est-ce que c'est les habitants complices? C'est vous, par exemple, qui avez envie de participer à un spectacle. Et moi, je vais vous dire, ah bah tiens, cette année, j'accueille un spectacle de danse, mais le chorégraphe, le professionnel de ce spectacle, demande à travailler avec des amateurs, des complices. Il va demander à 100 personnes de venir danser une partie du spectacle. Et ben moi, c'est mon travail d'aller rechercher des gens comme vous qui aiment danser et de leur dire, est-ce que vous pouvez venir participer au spectacle? Et donc, il va y avoir des répétitions. Je vais organiser des répétitions. Et après, il va y avoir le spectacle avec les amateurs. Donc, pour répondre à ta question, on travaille avec des professionnels, mais qui travaillent parfois, qui demandent parfois à travailler avec des amateurs.
Et est-ce que c'est vrai, là, le spectacle de danse qui s'offrait avec des amateurs, ou c'est un exemple?
On en aura pendant le festival Waterproof, on aura un spectacle de danse avec des amateurs. Parce que cette année, on a quand même un spectacle qui s'appelle Tapis Rouge, sur le droit des enfants, et qui est un spectacle choral avec 500 personnes, donc adultes et enfants, qui vont chanter pour le droit des enfants, sur la place du Parlement. Voilà, donc on aura un spectacle avec des amateurs.
Comment vous choisissez l'artiste?
Comment on choisit les artistes? Eh ben Morgane, que vous avez croisée en arrivant, qui avait un sweat bleu. Morgane, c'est notre directrice programmatrice. Donc, c'est elle qui programme les spectacles. Alors, parfois, on y va en équipe. Parfois, elle nous propose d'aller voir avec elle un spectacle. Mais c'est toujours elle qui décide à la fin de si on programme ce spectacle ou pas. Donc voilà, elle va voir beaucoup de spectacles.
Et quel est le but du festival?
Eh ben, c'est une très belle question. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'y répondre. Moi, je crois que notre but, c'est de rendre heureux les gens. De jouer avec la ville, de jouer avec les gens, de créer des surprises dans la ville, de donner des émotions aux gens, toutes les émotions possibles. Ça peut être de la joie, mais parfois, il y a des spectacles qui sont super tristes. Mais ça fait du bien aussi de voir un beau spectacle qui nous amène à être un peu triste. Mais on sait pourquoi on y va et voilà. Donc je crois que ça c'est notre on se dit d'intérêt général, c'est un mot pour dire que en fait on a de l'intérêt pour tout le monde. J'estime qu'on a de l'intérêt pour que les gens aillent bien et que ouais voilà, enfin je dis voilà, moi je crois que les tombées de la nuit, surtout nous, en début d'été comme ça, on est là pour créer de la joie, de la surprise et voilà, et rendre heureux les gens. Voilà, je me répète. C'est une manière, en fait, à travers les spectacles, c'est une manière de dire plein de choses. Parfois des choses hyper violentes, mais qui vont être dites d'une manière plus douce. Parfois des choses, au contraire, très drôles et très bêtes, mais ça va faire du bien aussi. On a des spectacles qui sont des clowns, qui viennent juste faire de la boxe et tout ça, et c'est à mourir de rire. Et ça fait du bien. Mais en fait, je crois que pour que les gens aillent bien, surtout dans les contextes, le contexte du monde, tout ça, ben ça fait du bien d'avoir ces petites espèces-là de respiration aussi. Voilà. Et parfois, on a un festival entre Noël et Nouvel An. Parce qu'on vient aux endroits où des fois les gens sont un peu seuls. Entre Noël et Nouvel An, Des fois, il y a des gens qui peuvent pas rentrer dans leur famille, ou ben qui ont plus de famille, ou plus de lien avec leur famille. Voilà, donc c'est des moments où c'est un peu difficile. Donc souvent, nous, on aime bien faire des spectacles un peu joyeux à ce moment-là. Comme ça, ça rassemble autour, encore une fois, de choses joyeuses.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Qui paye pour l'organisation de ce festival ?
Qui paye pour le festival ? Eh ben, en fait, nous, on a de l'argent principalement de la ville de Rennes. Ça, c'est ceux qui nous donnent le plus d'argent. On a aussi de l'argent du département et de l'argent de la région et de l'argent de l'État, de la DRAC. Voilà, donc on est à plein d'endroits où on nous donne de l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, ces endroits-là, ils ont de moins en moins d'argent. Donc, ils nous donnent de moins en moins d'argent. Mais malgré tout, c'est comme ça. C'est grâce aux subventions publiques, on appelle ça, qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est l'argent de tout le monde. C'est grâce à nos impôts et au fait que tout le monde paye des impôts qu'après, l'argent est redistribué pour que nous, on puisse offrir des spectacles. Ça va, c'est compris. Enfin,
c'est l'argent. On dit que c'est l'argent public. Ça appartient à tout le monde.
Ouais.
Voilà.
Personne qui travaille.
Voilà.
De ceux qui. Alors, tu sais, parfois tu travailles et tu payes pas d'impôts parce que tu gagnes pas assez.
Pas assez.
Mais effectivement, les gens qui travaillent, qui payent des impôts, leur argent, ça sert à l'hôpital, à l'école, à la culture. Voilà.
Et c'est pour ça que nous, c'est hyper important pour nous de faire les spectacles le moins cher possible et que. À Rennes, on est un peu tous d'accord pour être dans cette dynamique dans les structures culturelles. Parce que comme les gens payent des impôts pour qu'on fasse des spectacles, bah, l'idée, c'est de leur permettre d'aller au spectacle le plus facilement possible. Voilà. Donc, on répond à ce qu'on appelle les droits culturels. Les droits culturels, c'est hyper important pour nous. C'est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Donc, de respecter ces droits, c'est-à-dire de rendre accessible aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui ont le moins de moyens. Donc, de rendre les spectacles le moins cher possible pour que plus de personnes viennent voir le plus de spectacles. Voilà.
Combien de personnes assistent au festival ?
Waouh, j'ai pas trop les chiffres et on n'est pas ce genre de festival à compter. Comme on est sur l'espace public, c'est difficile pour nous aussi de compter. Je dirais que en moyenne, par exemple, on a fait une grosse installation au place du Parlement, une installation qui s'appelle Secret. C'était une installation avec des grandes lettres en bois et en fait, on a proposé pendant plusieurs jours que les gens de la ville viennent déposer leurs secrets. Alors, ils avaient le droit de déposer des secrets de manière visible, donc ils venaient accrocher leurs secrets, ou alors ils les postaient dans une boîte aux lettres et c'était d'autres personnes qui accrochaient leurs secrets, comme ça, on ne voyait pas qui est-ce qui avait déposé ce secret. Et puis aussi, on avait une grosse boîte fermée à cadenasser, dans laquelle on pouvait déposer son secret et jamais personne le lirait. Et à la fin, on a brûlé toute l'installation. Sur la place publique, on a brûlé les secrets des Rennais. Et au moment où on a brûlé tous les secrets, je pense qu'on a eu environ 4000 personnes à venir sur cette place. Donc en fait, on arrive à faire ces événements. On a fait un gros spectacle au stade Rennais aussi, dans le stade. Et on a eu 2500 personnes. Donc voilà, il va y avoir des grosses choses comme ça. Et puis après, on a des spectacles sur lesquels on a 200, 300 personnes. Je dirais que sur le festival, en tout, on doit en voir peut-être à passer, je dirais, environ 10 000.
Combien de personnes travaillent sur l'organisation du festival ?
Alors, au tombé de la nuit, on est passé rapidement, mais vous avez vu, on n'a pas beaucoup de bureaux, on est 8 en tout, au tombé. 10 avec l'équipe technique, donc on a le directeur technique et un assistant directeur technique, mais ils sont intermittents du spectacle. On est 10 en équipe réduite, mais sur le moment du festival, on gonfle nos équipes, puisqu'on est dans plein de lieux différents et tout ça. Donc on embauche environ une quinzaine de techniciens qui viennent accompagner les équipes artistiques à s'installer. Et moi, j'embauche une trentaine de vacataires. Donc j'embauche des étudiants ou des personnes sur des petits contrats CDD qui vont venir m'aider à l'accueil public. Donc environ, en gros, on a aussi des gens qui viennent faire à manger et tout ça. Environ, on est une cinquantaine sur le temps du festival. Donc on passe à de 8 à 50 sur le temps du festival. On n'a pas de bénévoles, c'est une volonté. On est suffisamment subventionné pour payer les postes.
C'est la dernière question. Pourquoi vous aimez ce festival ?
Est-ce que j'aime le festival d'ailleurs ? Non, j'adore le festival. Pourquoi j'aime ce festival ? Ce que j'adore au Tombé de la Nuit, c'est qu'en fait, on travaille dans la rue. Nos spectacles, on les fait sur la place publique, donc on s'adresse à tout le monde. Et souvent, on a des spectacles qui sont accessibles à tout le monde. Des fois, quelqu'un qui connaissait pas du tout le festival et qui passait par là et qui faisait du shopping, va s'arrêter, puis finalement va se dire « Ah bah tiens, j'ai vu un super spectacle de danse alors que j'allais juste chez Lidl faire mes courses. » Enfin voilà, donc ça, j'adore ça. Et puis j'adore le fait qu'au Tombé de la Nuit, on travaille avec plein d'artistes différents. Enfin, on fait du cirque, de la danse, du théâtre, de la musique. Donc en fait, moi, je découvre plein de choses. Et moi, ce que j'adore dans ce festival, c'est qu'on fait plein de spectacles qui sont un peu bizarres comme ça. Mais on s'amuse beaucoup. Un dernier petit spectacle comme ça pour vous montrer un exemple. Mais on a fait un spectacle avec des enfants, des sixièmes, donc ils avaient 12 ans. Et on a proposé à des enfants, pendant tout le temps d'un week-end, de tenir un salon de coiffure, tout seul, sans adulte. Donc, ils avaient des ciseaux, des rasoirs et tout ça. Et ils ont coupé, tondu les cheveux de 87 adultes. Il y a 87 rennais qui ont été d'accord de se faire couper les cheveux.
Et vous auriez fait, vous ? Vous seriez allé voir les enfants de 12 ans, coupe-moi les cheveux ?
Non.
Et bien, il y a quand même 87 rennais qui l'ont fait. Et c'était d'ailleurs très drôle parce qu'après, pendant le festival, on voyait ceux qui étaient passés par le salon des enfants parce qu'ils avaient un peu les cheveux comme ça. Mais voilà, c'est des spectacles qui viennent questionner, par exemple, la place des enfants, des droits des enfants par rapport aux adultes, quelle place l'adulte laisse à l'enfant. Enfin voilà, on aime bien aussi changer les regards et perturber un peu tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans Les Tombées de la Nuit, c'est qu'on fait des spectacles comme tout le monde, mais on fait des spectacles aussi un peu différents et qui viennent un peu bousculer les gens. Voilà.
On peut dire merci à Alice pour son accueil.
Merci beaucoup. Et vous expliquez. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour le temps que tu nous as accordé.
Moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes.
Merci pour l'information.
Avec plaisir.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On écoute Andrea Laszlo de Simone, Imancita.
Con come il sogno poi si dissolverà. Da domani inizierà una nuova immensità. Da domani, da domani, da domani.
Immensità, Andrea Laszlo de Simone sur Canal B, retour à langue et communication.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour, je suis Wada, je suis marocain. Nous sommes étudiants en français à langue et communication. Nous préparons une émission de radio avec Madame Morgan, journaliste à Canal B. Nous avons choisi de parler des mariages d'église. Et maintenant, vous présentez.
Bien sûr, bonjour, je m'appelle Sophie et je suis formatrice de français. Ici à Langue et Communication.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Saïkhan, je suis tchétchène. Est-ce qu'il y a beaucoup de mariages catholiques en France ?
Alors, de mon point de vue, oui, parce que je connais beaucoup de catholiques et donc beaucoup de personnes qui se marient. J'ai l'impression que c'est moins qu'avant, quand même. Voilà.
Quelles sont les conditions pour faire un mariage catholique ?
Alors, il faudrait que au moins, normalement, un des deux soit baptisé, déjà. Voilà, une personne sur deux est baptisée, c'est-à-dire a reçu le baptême en tant que catholique. L'autre personne n'est pas obligée d'être baptisée. Voilà.
Est-ce que la femme doit être vierge avant les mariages comme en islam ?
Normalement, oui. La femme et l'homme doivent être vierges avant le mariage. Après, c'est pas toujours le cas.
C'est moins le cas.
Qui prépare la fête des mariages ?
Alors, ce sont les personnes qui veulent se marier, donc les mariés, voilà. Mais souvent, la famille aide les parents, les frères et sœurs, surtout, et les grands-parents, s'ils sont encore là.
Est-ce que la famille des mariés donne l'argent pour aide dans la préparation ?
Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que je crois que oui, quelquefois, il y a des personnes qui aident financièrement. Mais sinon, en tout cas, dans mon cas, je peux parler de ce que je connais, c'est plus les parents qui avaient prévu, depuis la naissance, de mettre de l'argent de côté pour payer les mariages le jour même. Et comme ça, les invités, ils offrent plus des cadeaux pour l'installation dans la maison.
C'est difficile pour les catholiques de divorcer. Si oui, pourquoi ?
Alors, c'est vrai que le divorce dans la religion catholique n'existe pas. Enfin, ça existe, mais normalement, c'est plus considéré comme une séparation de l'homme et de la femme. Parce que comme c'est un mariage qui est religieux, c'est un mariage qui est sacré. Et donc, quand Dieu unit deux personnes, on ne peut pas casser ça. Après, le divorce existe au niveau du mariage civil, et donc ça peut suivre. Quelquefois, dans certains cas, et c'est pour ça qu'avant le mariage, il y a des questions qui sont très précises, qui sont posées, pour être sûr que les deux personnes qui ont décidé de se marier ne sont pas obligées de se marier, que tout est d'accord totalement. Si on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires avant le mariage, au niveau de l'Église, il peut y avoir une annulation du mariage. Le mariage est annulé. Voilà. Et avant le mariage, mon mari et moi, on a dû écrire tous les deux une lettre avec les piliers du mariage qui doivent être dedans. Et le prêtre nous a dit, ça c'est conservé. Et comme ça, si vous décidez de casser le mariage, on va relire les lettres pour voir si vous étiez totalement libre de vous marier. Donc l'annulation, c'est pas facile. pour un mariage.
Il faut écrire à Rome, enfin,
oui,
au
normalement,
Vatican.
Exactement. Ouais.
Il faut écrire au pape.
C'est que mon contrat.
Quand vous allez vous marier à l'église, il y a comme le registre et vous signez vraiment que vous vous mariez. Il y a les témoins qui signent aussi. Donc, c'est vraiment pour dire, bah, tout le monde était d'accord ce jour-là, tout le monde avait décidé de se marier. Et donc, c'est sacré. Et donc, on ne peut pas couper ça.
Est-ce que les catholiques vivent ensemble avant le mariage? Pourquoi?
Alors, justement, par rapport à la virginité avant le mariage, normalement, les catholiques ne doivent pas vivre ensemble avant le mariage. Là encore, ça dépend. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent ensemble avant le mariage et qui se marient quand même. Alors, quelquefois, pour être un peu plus, on peut dire, clean, il y a une idée de, avant le mariage, on décide de se séparer un petit peu pour retrouver une vie intérieure, pour retrouver une chasteté, une virginité, comme ça.
Que donne le mari à sa fiance comme un cadeau avant le mariage?
Alors, avant le mariage, le mari offre une bague, souvent, que je ne porte pas. J'en ai eu une, mais je ne la porte pas parce qu'elle est trop... pour moi, c'est pas facile de la mettre tous les jours. Mais oui.
C'est la bague de fiançailles.
Exactement. Et de plus en plus, ça c'était la tradition, mais la tradition, j'ai l'impression, change. Et de plus en plus, la fiancée offre aussi un cadeau à son fiancé. Et souvent, ça peut être une jolie montre.
Est-ce que le mari a le droit d'avoir d'autres femmes?
Non. En tout cas, moi, mon mari, il n'a pas le droit.
Non, mais la religion catholique interdit.
Interdit, ouais, c'est interdit.
La polygamie, ouais. En fait. Ouais. Ouais,
tout à fait.
Est-ce que les étrangers peuvent se marier à l'église avec pas payé ou sans pas payé?
Alors, oui. En tout cas, les étrangers peuvent se marier à l'église. Après, en fait, l'église, elle suit les règles du mariage civil. Parce que moi, pour me marier à l'église, il fallait d'abord que je me sois mariée civilement. Et il fallait vraiment présenter au prêtre le papier du mariage civil. C'est pas possible aujourd'hui de se marier à l'église sans être mariée civilement d'abord.
D'accord.
Est-ce que les cérémonies, l'église, s'y passent toujours dans les mêmes ordres?
Oui. Il y a un ordre très précis pour la cérémonie dans l'église.
Qui présente la cérémonie?
Alors, c'est un prêtre. C'est un prêtre qui officie la cérémonie du mariage. Mais dans mes souvenirs, et ça c'est assez important, le prêtre il est là, mais c'est surtout l'homme et la femme qui se donnent le sacrement de mariage.
Y a-t-il une différence des cérémonies entre les personnes riches et les personnes pauvres?
Au niveau de la cérémonie religieuse, non. C'est-à-dire que c'est vraiment le rituel d'entrée. Vous avez les chants, vous avez la lecture, vous avez tout ça. Donc, ça ne change pas. Après, ça va plus changer pour la fête, après.
Pourquoi les cloches d'église sonnent?
Pour manifester qu'on est super content.
Pourquoi le père accompagne la mariée et pas la mère?
C'est une très très bonne question, d'accord. C'est en fait quand le fiancé veut se marier, il demande au père la main de la fille. Et donc c'est un peu comme une symbolique du père qui va lâcher la main de sa fille et la fille ensuite se marie, enfin et va pouvoir se marier. Voilà.
Pourquoi la mariée jette les bouquets de fleurs?
Oui, alors ça, je pense que c'est une tradition, je pense, qui nous vient plus des États-Unis et qui n'est pas systématique dans les mariages. Mais on peut le faire pour rigoler. Et donc, la symbolique, c'est que la mariée qui lance son bouquet de fleurs, la fille qui attrape le bouquet, c'est la prochaine à se marier.
Qu'est-ce qui se passe après la cérémonie?
Après la cérémonie, souvent, on invite tous les invités à aller dans un lieu, d'accord, pour faire la fête, boire, manger, danser, voilà. C'est tout ce qui se passe, ouais.
Une question pour vous.
Oui.
Pourquoi vous vous étiez mariée à l'église?
Je me suis mariée à l'église parce que pour moi, c'était important en tant que catholique. Et aussi, alors il y a à la fois la religion qui était importante pour moi, mais aussi par tradition. Donc c'est les deux qui sont mélangés. J'étais à la fois très contente de recevoir ce sacrement, mais en même temps, pour moi, c'était normal de me marier à l'église. Voilà.
Maintenant, dans la slave, que j'ai, elle s'appelle Katpektap, comme ça. Pourquoi me la marier?
Ouais.
Mais la femme costume, la porte la robe soirée comme ça,
ouais.
Je pense. Est-ce que dans l'église aussi, elle doit, la femme et les hommes, portent quelque chose? Et non, c'est pas grave.
Ouais, alors traditionnellement, la femme, elle porte une robe blanche. Quelquefois, quand c'est très très traditionnel, la femme, elle a souvent un voile. Et elle cache le visage aussi, mais très, très traditionnel. Et au moment où le sacrement du mariage est donné, l'homme peut enlever le voile. Voilà. Mais ça, c'est pas systématique. Et par rapport au fait que la femme soit vierge ou pas avant le mariage, quelquefois, bah, souvent blanc, c'est signe de virginité. Et il y a des femmes, pour être un peu honnêtes, elles mettent une petite couleur pour dire, bah non, je suis pas vierge, mais... je mets quand même une robe blanche avec un signe pour montrer, ouais. Bah voilà.
C'est, pas... c'est possible, catholique, mariage d'hommes, de femmes.
Ah, dans l'Église catholique, alors jusqu'à présent, ça n'est pas possible, un mariage. Mais récemment, le pape a autorisé une bénédiction. Donc c'est-à-dire que c'est pas le sacrement du mariage. Mais ça permet de quand même pas totalement fermer la porte aux personnes homosexuelles. Et donc, du coup, bah, le pape François, il a ouvert un peu la porte en disant, bah, on va pas totalement rejeter les couples homosexuels. Et donc, bien sûr, bah, ça a fait beaucoup de... Il y a des prêtres qui étaient OK, il y a des prêtres qui étaient pas OK, il y a les catholiques qui étaient OK, et ça. Donc, c'est compliqué, mais pour le moment, c'est pas possible.
Merci beaucoup.
Les femmes des catholiques, quel âge ils pouvaient faire le mariage?
À partir de quel âge, c'est une bonne question. Je pense qu'elles peuvent se marier à partir de 18 ans, ou alors peut-être avant, mais il faut l'autorisation des parents, vu que ça suit le mariage civil. Après, en France, de plus en plus, on se marie tard. Voilà. Ouais. Voilà.
Merci d'accepter de répondre à nos questions.
Merci.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On écoute Chevsky & Wood, I Have You. We have next.
94.0.
Donc vous avez raconté qu'on a fait des interviews et on a notamment interviewé Sophie qui est catholique et qui a fait un mariage catholique. Vous vouliez vraiment la rencontrer pour avoir des informations sur comment ça se passe à l'église catholique, que doit faire la mariée, que doit faire le marié. Vous avez demandé notamment à Sophie si la mariée devait arriver vierge pour se marier. Et Sophie, elle a raconté que la mariée, mais aussi le marié, l'homme, doit être vierge. Et vous avez aussi demandé si l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Et Sophie, elle vous a dit non, c'est interdit. Et parce que ça, en fait, c'est différent dans les autres pays. L'homme, il a le droit d'arriver non vierge et il a le droit d'avoir d'autres femmes, c'est ça ?
Dans la musulmane, généralement, juste la femme vierge, mais l'homme pas trop.
L'homme, il n'est pas obligé d'être vierge.
Non, pas trop.
Et l'homme, il a le droit d'avoir plusieurs femmes aussi dans certains pays.
Oui. D'être là, jusqu'à quatre femmes. L'homme, elle peut prendre la quatre femmes.
On a pour l'islam, on a les hommes, on a le droit de faire les mariages avec quatre femmes. On a mon pays en Tunisie, les lois interdisent les hommes les mariages avec quatre femmes, juste une femme, c'est tout.
Donc en Tunisie, on a interdit la polygamie.
Ouais.
Et toi, Ashraf, tu m'as dit que, quand on parlait, tu nous avais dit que la culture fait que tu ne peux pas prendre une femme de ton âge, alors que tu es jeune, que tu as 34 ans. Il faut qu'elle soit plus jeune.
Ça dépend. Il n'y a pas toutes les personnes, c'est les mêmes mentalités. Ça dépend les mentalités pour les personnes. Maintenant, beaucoup, il n'y a pas de problème pour les jeunes. Les jeunes, ils choisissent les femmes plus âgées. Les parents les refusaient. Ils cherchent les femmes plus jeunes.
Ça dépend des gens, en fait.
Par exemple, maintenant, moi, j'ai 30 ans. Mais il y a beaucoup de problèmes pour la fille dans la Syrie, généralement, le musulman comme ça. Que ne m'a pas mariée jusqu'à 20. Il y a beaucoup de personnes qui questionnent pourquoi tu n'es pas mariée jusqu'à maintenant, tu es grand, tu n'es pas bien comme ça. La parole aussi, il y a beaucoup de personnes demander la parole aussi pourquoi tu n'es pas donné sa fille donne chez toi comme ça. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, maintenant, moi, j'ai écouté beaucoup de choses sur moi. Et pourquoi tu n'es pas bien comme ça? Oui, j'ai très, très triste et j'ai très compliqué dans ma santé parce que toujours j'ai expliqué. Parce que moi, maintenant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé pas bien l'homme comme ça. Il dit non, c'est pas bien comme ça. Mais dans la culte et culture la culte, il y a liberté. Je suis que la femme liberté.
Chez les Kurdes, les femmes sont plus libres.
Oui, libres. Elles choisissent les hommes, les marient pas. Comme vous voulez. Mais dans l'Arabe, généralement, il y a beaucoup de problèmes.
Alors, en France, c'est vrai aussi, c'est moins fort, mais on peut entendre encore quand une femme n'est pas mariée à 30 ans, 35 ans, oh là là, c'est pas normal, il y a une expression qui dit tu vas finir vieille fille. Et l'image de la vieille fille, c'est donc tu vas vieillir, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant, tu seras toute seule. Et tu seras un peu aigri, quoi. Et on ne le dit jamais aux hommes. Si un homme à 35 ans n'est pas marié, ce n'est pas grave.
Ouais.
Ça, il n'y a pas de problème pour l'islam. L'islam, on a le droit de faire les mariages avec les femmes les plus âgées. Il n'y a pas de problème avec l'islam. On m'a dit le problème, on a, par exemple, la famille, les personnes, on a le problème, les filles plus âgées. On m'a dit... il n'y a pas regard pour les faire les mariages. Dis-moi, regarde les filles, les pliages.
Mais pareil, de la même façon, en France, en Europe, on va regarder une femme qui va se marier avec quelqu'un, un homme plus jeune. On va dire, ouais, c'est pas terrible, on va la critiquer. Comme Brigitte Macron, on en a parlé, hein, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, je crois qu'ils ont 24 ans. Elle a 24 ans de plus que lui et elle est très critiquée. Et à l'inverse, si c'est l'homme qui a 24 ans de plus, c'est pas grave. On regarde ça différemment. Donc c'est vrai aussi ici et c'est vraiment culturel. Et je vous avais raconté aussi que c'est, on le fait moins, mais ça reste quand même une tradition en France. À 25 ans, si une fille, une femme est seule sans mari, le 25 novembre, à la Sainte Catherine, elle fête les Catherinettes. Elle est célibataire et elle met un chapeau vert et voilà. Donc c'est partout dans le monde un peu la même chose, même si on est plus libre et que chez les Kurdes, les femmes ont une grande liberté par rapport à ça.
Oh oui, mais il y a famille réfléchie comme la arabe aussi. Elle dit non, bien sa famille mariée petite, parce que après sa femme, elle trouvait beaucoup de problèmes. Comme maintenant moi, j'ai trouvé beaucoup de problèmes. Parce que moi, je n'ai pas parlé avec d'autres personnes. Parce que toujours, question, pourquoi tu ne m'as pas marié, tout belle, tout belle. Oui, ok, j'ai vous. Mais maintenant, je ne trouvais pas bien la personne.
Tu n'as pas trouvé le bon mari, donc tu refuses de te marier et on te fait les réflexions. C'est pas parce que tu es syrienne d'origine kurde que tu as ces réflexions. Tu les aurais en France aussi. Oui. Tu vois, si t'étais tu es célibataire à 30 ans et en France, on te dirait faut se marier. Oui. Ce qu'on ne dit pas aux hommes. Et qu'est-ce que vous avez, je laisse un peu le mariage de côté, à moins que vous ayez envie de dire des choses sur le mariage. Qu'est-ce que vous avez préféré? Quelle est, la rencontre que vous avez préférée? On a vu Alice au tombé de la nuit, on a vu Yvan de La Pulse pour le carnaval, on a vu André Métayer et Marie-Brigitte pour Nowruz. Qu'est-ce que vous avez préféré?
Moi, j'ai pu... Bien sûr, les Kurdes.
Oui, tu as préféré rencontrer André Métayer pour parler de Nowruz.
Oui, sur la Nowruz.
Et des Kurdes, du Kurdistan. Oui. Esmeralda, tu as préféré...
Pour les Kurdes.
Aussi la rencontre.
C'est présente pour ça.
Et sur le mariage mixte, comment ça se passe? Le mariage mixte en Albanie, il est accepté?
Oui, et accepté. Avant, des problèmes. Par exemple, comme famille musulmane, et les traditions, elles n'acceptent pas. Par exemple, une religion catholique ou une religion musulmane n'accepte pas. Maintenant, tu choisis comme vous voulez. Par exemple, c'est trois maintenant. On doit une femme musulmane, mariage avec un homme catholique ou chrétienne ou orthodoxe, je ne sais pas quelle religion. Mais je connais encore les familles musulmanes, elles n'est pas acceptées.
C'est beaucoup, la même chose ici. Hein.
Oui. Mais par exemple, moi je connais la personne en Albanie, les musulmans traditionnels, voyager à autre pays et mariage, par exemple, une homme française, une homme américaine, une homme allemande.
Pas de problème,
oui. En Albanie, non.
En France, ça pose aussi problème à certains. Ah, ouais. Et Sharifé, je sentais que tu avais envie de parler sur le mariage mixte.
Oui, en Syrie, normalement, les femmes et les hommes ne sont pas mélangés.
Et on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même religion.
Les hommes, oui, avec les femmes...
catholique,
pas musulman,
juive, bouddhiste.
Oui, mais les femmes, non.
D'accord. Il faut qu'elles épousent un musulman.
Oui.
Vas-y, Swad.
Au Yémen, les mariages
avec la famille. Nous sommes pays fermés, il n'y a pas de gens étrangers. On a un mariage aussi avec la famille. Ils sont préférés en mariage les petites filles parce qu'ils payent beaucoup d'argent pour les familles. Pour ça, ils donnent toute petite gêne pour les femmes. On a marié.
Ils donnent beaucoup d'argent pour avoir des petites filles pour se marier avec elle au Yémen.
Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Pour ça, on a marié petit jeune.
Ça, c'est terrible de donner beaucoup d'argent en fait pour se marier avec quelqu'un de très jeune, une fille de très très jeune.
Mais les garçons, ils préfèrent les petites jeunes. Tous les garçons, c'est comme ça. Ils fraîchent comme ça. S'il prend une petite fille, il a amené beaucoup des enfants. Pour ça, elle paye beaucoup d'argent pour prendre des petites filles. Il n'y a pas de choix aussi avec nous. C'est mon parent qui choisit mon mari, c'est pas nous. Je pense que j'ai marié avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est normal ça au Yémen. Parce que c'est interdit, on a vu garçon avant des mariages.
Tu n'as pas le choix.
Il n'y a pas de choix, oui, au Yémen.
On décide pour toi. Les garçons ont le choix, eux, mais pas les filles.
Oui.
En tout cas, au Yémen, on ne sait pas forcément, c'est important d'entendre ton témoignage. Tu comprends la force de ton témoignage, de dire voilà comment ça se passe au Yémen, parce que comme c'est très fermé, on imagine, mais on ne sait pas. Donc c'est...
Il y a beaucoup de traductions compliquées avec nous. Pour ça, les mariages, ce n'est pas très bien. Pour moi, j'ai réfléchi comme ça, moi. Je n'aime pas les mariages avec ma traduction. Parce qu'il n'y a pas de choisir beaucoup de choses pour les mariages, pour les amours. Ça, tout c'est interdit pour nous.
T'as pas eu le choix?
Oui, j'ai marié avec quelqu'un que je ne connais pas. Les jours des mariés, j'ai vu. C'est qui mon mari? S'il y a grande personne, c'est mon... C'est mon chance.
Si tu tombais sur quelqu'un
grand,
de gentil, de beau, enfin que là tu avais de la chance, mais tu savais pas avant.
S'il a payé beaucoup d'argent, normalement c'est grand personne.
S'il a donné beaucoup d'argent, plus on donne d'argent, plus on sait que la personne est âgée.
Âgée beaucoup. Ouais.
Et tu veux nous dire quel âge il avait?
Pour les filles.
Toi, tu étais très jeune.
Ouais, 13 ans.
13 ans. Et lui?
47.
47. Tu comprends quand je dis que ton témoignage est très important, que tu aies le courage de nous raconter ça? C'est très important parce que on ne sait pas grand-chose sur le Yémen. Et c'est important d'en parler. De dire voilà ce que subissent les femmes et les filles, les petites filles au Yémen.
On a marié dans la maison parce que les lois aussi, c'est pas beaucoup accepté les femmes, les filles de 12 ans, 13 ans. Pour ça, on a marié dans la maison avec les chers. Elle a amené dans la maison avec mon parent. Comme ça, on a marié. Petit jeune.
C'est un peu caché quand même. C'est
ouais.
Ça que tu...
Ouais.
Parce que quand même, on se dit, ouais. C'est jeune. Ouais. Ouais. Merci, Swad, de ce témoignage qui est très, très précieux et très fort. Et je répète, mais tu es très courageuse aussi de venir nous raconter ça. Ashraf, vas-y, je t'en prie.
En Tunisie, on a le premier pays arabe. Ils donnent les lois pour la femme, pour la liberté. On a les choisi, les faire les mariages avec les gens, les plus âgés,
ouais.
Les âgés, les riches, les peufs. On a aussi le droit de sortir sur la rue avec les foulards ou sans foulard. On a beaucoup de choses à faire accepter pour la femme en Tunisie. On a beaucoup de choses, il n'y a pas comme avant. Maintenant, on a le droit de faire comme vous voulez, la femme. Tu sortes pour le foulard ou sans foulard. Tu choisis les hommes pour les faire le mariage. Il n'y a pas les familles, non, ça, oui, ça, non.
la femme qui choisit les hommes.
Ça, ce sont des lois qui sont passées en Tunisie, mais avec le gouvernement actuel, est-ce que ça se durcit un peu?
Ça dépend des villes.
Ça dépend des villes.
Ouais.
À Tunis, c'est plus tranquille que dans les plus petites dans villes.
Les petites villes sur les campagnes. Ouais. Il n'y a pas comme les grandes villes, comme les capitales Tunis, Sousse.
Sousse, Monastir, toutes ces villes qui sont sur la côte et qui accueillent beaucoup de touristes depuis des décennies.
Ouais.
C'est plus ouvert parce que plus en contact avec le touriste. Mais après, tu parles du voile en disant que les femmes en Tunisie, elles font ce qu'elles veulent, elles portent le voile, elles ne le portent pas. En France, il y a des gens qui voudraient dicter leurs pensées aux femmes là-dessus, dire vous portez pas de voile. Tu vois, il y a une différence, c'est que ces gens-là en France, ils sont beaucoup moins tolérants que dans des pays comme la Tunisie.
On a beaucoup de différences pour beaucoup les pays arabes. Ça dépend les pays, ça dépend les mentalités pour les personnes.
Mais sur la Tunisie, on en a un peu parlé tous les deux. On a parlé de Bourguiba. Qui était, tu m'as dit,
Bourguiba, le premier président, les faire les libertés pour la femme, les faire comme vous voulez, pour les votes aussi.
Ouais, et après, il y a eu des présidents qui ont un peu resserré la vis aussi. En ce moment, ça serre la vis, non ça...
beaucoup.
C'est ça, ça dépend aussi de qui est au pouvoir.
Ouais, ça dépend.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B Radio Curieuse.
It's the earth. The earth is my body. My head is in the stars. Who said that?
I don't know.